أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ خطبے میں اهدنا الصراط المستقيم
au cours de mon précédent sermon à la lumière des dires du Messie premier l'Islam concernant la prière اهدنا الصراط المستقيم j'ai dit que cette prière renferme la prophétie de la venue du Messie promis. Cette prière nous informe aussi que c'est de la Oumma du Saint-Prophète Mohammed peace soit sur lui que naîtra ce Messie. Et cette prière nous donne l'ordre d'accepter ce Messie. Et les musulmans doivent réfléchir à ce propos. Car c'est par ce seul moyen que les musulmans vont sortir de leur état de faiblesse et c'est par ce seul moyen que l'on pourra rétablir de nouveau l'honneur et la dignité et la gloire des pays musulmans. Voilà la seule voie comment atteindre ces objectifs. Cette voie, c'est d'accepter cet envoyé de Dieu, cet envoyé qui est venu suite aux prophéties du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Qu'Allah fasse que ces musulmans puissent comprendre cette vérité. Aujourd'hui, concernant ce verset, je vais présenter quelques explications du Messie premier l'Islam, des explications qu'il nous a données pour notre propre progrès spirituel. Je vais présenter ces dires du Messie premier l'Islam afin que l'on puisse comprendre l'étendue de cette prière et afin que nous puissions aussi comprendre les responsabilités qui reposent sur les épaules après avoir accepté le Messie premier l'Islam, afin que nous puissions comprendre aussi nos devoirs et comment nous devons nous réformer et à quel point nous devons aussi progresser. Et cela va nous faire aussi comprendre comment nous devons prier. Je vais donc présenter les dires du Messie premier l'Islam plus tard, mais auparavant je vais présenter d'autres explications à ce propos. Le Muslimaud, radiallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a expliqué le terme Hadam. Il a tiré ses conclusions des lexiques arabes et dans ses explications, il a présenté trois points. Il dit que Hada signifie montrer la voie, mener à destination et atteindre aussi sa destination. Montrer la voie et mener à destination ne sont pas deux choses similaires. Une personne peut montrer à une autre la voie à suivre de loin en disant « voilà la voie à suivre ». Et mener à destination signifie que l'on doit accompagner la personne jusqu'à sa destination. Celui qui mène sur cette voie doit donc accompagner cette personne jusqu'à sa destination finale. Dans différents versets du Saint-Coran, Dieu a évoqué ce sujet. Nous faisons cette prière « Ihdina Sirat al-Mustaqim » en disant « Oh Allah, guide-nous, éclaire-nous et montre-nous cette voie, mène-nous vers la vertu afin que nous puissions acquérir ces bonnes qualités, ces vertus. » Nous ne devons pas uniquement suivre cette voie, mais nous devons aussi acquérir ses qualités. Et nous devons aussi dire, oh Allah, fasse que nous puissions acquérir ses qualités ou ses vertus rapidement. Et fasse que nous puissions parcourir à d'autres étapes. Après cette prière, le croyant ne peut croiser les bras. Le croyant ne doit point se reposer sur ses lauriers. Au contraire, il doit tout le temps faire davantage d'efforts afin de progresser dans la spiritualité. Et il doit faire des efforts pour progresser matériellement aussi. Certes, généralement, nous faisons des efforts pour progresser matériellement et on fait beaucoup d'efforts en ce sens, mais l'on ne fait pas assez d'efforts dans le domaine de la spiritualité. En tout cas, dans cette prière, l'on trouve mention de ces deux types d'efforts, des efforts pour le monde matériel et pour le monde spirituel. De ce fait, ce verset rejette aussi le monachisme, c'est-à-dire rejette le fait que l'on doit se détourner de ce bas monde pour progresser spirituellement. Dieu a créé l'homme et en même temps, Dieu lui a accordé d'innombrables faveurs. Et dans cette prière, l'on nous a attiré l'attention vers le fait que l'on doit essayer d'acquérir ses grâces et ses faveurs. Cela veut dire donc que toutes ces faveurs ont été créées pour l'homme, le meilleur de la création, et il doit faire des efforts pour acquérir ces faveurs et ne doit pas se couper de ce monde. Cette prière concerne aussi le progrès dans le domaine de la connaissance. Ensuite, cette prière concerne aussi le fait que l'on doit progresser dans le domaine de la spiritualité et que l'on doit acquérir cette direction de la part de Dieu. Et puisque la direction vient de la part de Dieu, tout comme il déclare « Inna hudallahi huwal huda », à savoir que certainement, la vraie direction, la direction qui vient de la part de Dieu. C'est pour cette raison qu'il nous a enseigné cette prière que si vous voulez être guidé dans un domaine quelconque, implorez Dieu, dites à Dieu, guide-nous sur le droit chemin, guide-nous sur le droit chemin afin que nous puissions suivre cette voie, afin que nous puissions atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Cette prière est donc importante pour progresser davantage. En priant, l'homme déclare que « Ô mon Seigneur, guide-moi afin que je puisse user de moyens licites lorsque je vais atteindre une étape, guide-moi vers une autre étape. Guide-moi vers une autre étape rapidement afin que je puisse progresser rapidement. Et fasse que je puisse parcourir toutes ces étapes. Ici, je dois ajouter autre chose, à savoir que Dieu nous a enseigné cette prière. Ehdena, guide-nous. Cette prière est au pluriel. Certes, l'on doit prier pour son progrès personnel, mais puisque nous sommes dans une jamaat, nous devons prier aussi pour le progrès collectif, le progrès de toute la communauté. Donc, en faisant cette prière, l'on pourra se débarrasser de ses faiblesses personnelles. Car en prononçant cette prière, nous allons comprendre que nous demandons à Dieu de nous guider, nous tous. Nous demandons à Dieu de nous accorder du succès à nous tous afin que nous puissions parcourir toutes ces étapes. Lorsqu'on va prier ainsi, l'on fera aussi son auto-analyse. Et un individu va se demander que quelle action suis-je en train de prendre en ce sens? Jusqu'à quel point ai-je progressé dans la spiritualité? À quel point ai-je accompli mes devoirs envers mes semblables? Puisque nous prions au Notre Seigneur, guide-nous. Pourquoi nourrir rancœur? Pourquoi nourrir rancœur puisque nous sommes tous en train de suivre la même voie? En suivant cette voie, l'on va avoir des avantages personnels et on va aussi faire des efforts pour le progrès de toute la jamaat. Et en ce faisant, l'on va faire des efforts pour progresser spirituellement. Et on va aussi faire des efforts pour progresser dans notre connaissance et dans nos actions. Ensuite, Allah lui-même, suite à ses promesses, va ouvrir les portes du progrès. Tout comme il a déclaré, « وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى » Quant à ceux qui ont été guidés, Allah les guide davantage. Donc, afin de faire preuve de persévérance, l'on doit prier davantage. Et d'une part, l'on va progresser personnellement et spirituellement, et la jamaat aussi va progresser spirituellement. Et cela va aussi apporter le progrès matériel. Donc, cette prière n'est pas une prière insignifiante, une prière que l'on ne cesse de répéter dans chaque rakat, de chaque prière. Si cette prière sort des tréfonds de nos cœurs, ces prières vont ouvrir les voies pour notre progrès. Le Messie premier, alayhi salam, a cité cette prière et nous a expliqué cette prière et il a déclaré que cette prière concerne les gens de toute catégorie. Il déclare, le résumé de la prière Ehdina Sirat al-Mustaqim est qu'elle libère l'homme de toute malhonnêteté et l'aide à comprendre l'islam. Cette prière aide l'homme à comprendre davantage l'islam, quelles sont les voies à adopter. Cette prière l'aide à sortir des ruines et le fait entrer dans un jardin rempli de fruits et de fleurs. Celui qui récite cette prière avec plus de ferveur sera béni davantage par Dieu.
Le
le Messie premier de cela déclare que on ne doit pas uniquement réciter cette prière une seule fois lorsqu'on répète la sourate Al-Fatiha, mais on doit répéter cette prière plusieurs reprises. Et c'est ainsi que l'on sera enclin à se prosterner davantage devant Dieu, et cette prière va sortir avec plus de douleur de notre cœur. Il déclare que c'est grâce à la prière que les prophètes ont acquis l'amour de Dieu. Et à aucun moment les prophètes n'ont abandonné la prière, et l'on ne doit pas négliger cette prière, et l'on ne doit pas se détourner de cet objectif. Et cela, quel que soit son statut, que l'on soit un prophète ou un messager, car cette voie est sans fin. Donc, les prophètes aussi continuent à progresser. Les prophètes ne stagnent pas. Selon les aptitudes qu'Allah leur a accordées, ils progressent et font un voyage sans fin. Ce voyage est sans fin et l'intelligence ne peut le concevoir. C'est pour cette raison que Dieu nous a enseigné cette prière. Et c'est pour cette raison qu'il a déclaré que cette prière est quelque chose de fondamental dans la Salah. Et qu'il nous a dit de répéter cette prière, Ihdina Sirat al-Mustaqim, afin que les gens puissent en profiter et afin de parfaire l'unicité. Et afin que l'on puisse se souvenir des promesses de Dieu, afin que l'on se libère de toute forme de polythéisme. Une des vertus de cette prière est qu'elle recouvre tous les niveaux de la vie de l'homme. La direction ne se tarit pas à chaque étape. On trouve une nouvelle étape et tous les gens, quel que soit leur niveau, profitent de cette prière. Ceux qui sont faibles de foi profitent de cette prière pour progresser dans leur foi, et même les athées aussi profitent de cette prière afin de comprendre Dieu. Donc, cette prière nous aide à atteindre la prochaine étape si on prie sincèrement. Et cette prière concerne tout le monde. C'est une prière qui est sans limite et sans confins. Cette prière est donc sans fin et sans limite. Bénis sont ceux qui continuent à prier et qui prient avec douleur. Ces personnes qui prient en toute sincérité. Le Messie premier des salam a déclaré que en faisant cette prière, l'on doit ressentir une douleur extrême, comme si l'on est profondément meurtri. Et on doit continuer à prier, à demander Dieu. Et l'on doit aussi être satisfait de Dieu. Et on doit faire des efforts pour atteindre la destination finale. Quelle est cette destination finale? C'est d'avoir le plaisir de Dieu. Il a déclaré, cette prière apporte le bien, apporte la paix et apporte de bonnes nouvelles de la part du Rabbul Alamin. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Je vais en citer quelques exemples. Allah déclare « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِي كَلْبَهِ » Quant à celui qui croit en Allah, Allah le guide. Ensuite, il a déclaré « وَإِنْ تُتِعُوهُ تَهْتَدُوا » Si vous obéissez, le saint prophète Mohammed, et ce soit lui, vous serez guidé dans la bonne direction. Cela concerne donc l'obéissance due au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Obéissez au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et vous serez guidé dans la bonne direction. Et guider signifie progresser, signifie avoir le plaisir de Dieu. Et Allah a lié son plaisir et son amour avec l'obéissance envers le saint prophète Muhammad paix soit sur lui. Cette prière, Ihdina Sirat al-Mustaqim, est importante pour renforcer sa foi. Cette prière est importante pour être guidée et pour profiter de l'amour de Dieu. Cette prière sera exaucée par Dieu et il va accorder en retour d'innombrables faveurs. Le Messie promis, alayhi salam, a expliqué les types de Sirat al-Mustaqim. Il a déclaré « Marcher sur la voie de la vertu véritable » signifie « Marcher sur la Sirat al-Mustaqim ». Voilà ce que l'on appelle la voie du juste milieu. Car c'est ainsi que l'on prouve dans la pratique que l'on a compris l'unicité de Dieu. Le but de l'homme, c'est d'atteindre le tawhid, l'unicité de Dieu. Et pour atteindre ce niveau, l'on doit marcher sur la voie du milieu. La personne qui est négligente dans ce domaine tombe dans l'excès car elle est en train de négliger les commandements de Dieu. Celui qui néglige les commandements de Dieu est en train de commettre un acte d'excès et celui qui outrepasse les limites tombe aussi dans l'excès inverse. Dans cette deuxième catégorie, il y a par exemple des questions qui sont soulevées par des gens. Cela concerne aussi la vertu, les actes méritoires. Il est fort louable d'accomplir ces actes méritoires, mais dans certaines situations, la Jamaat préconise une ligne de conduite différente. Il n'est pas dit que l'on doit baisser les bras, que l'on doit s'affaiblir, mais il est préconisé que dans certaines situations, l'on doit garder le silence. Et l'imam, le calife, donne ses directives que dans cette situation précise, l'on doit garder le silence. Mais certains sont trop zélés et certains outrepassent ces limites. Certains expriment leurs sentiments avec plus d'ardeur. Et ensuite, ces personnes génèrent des difficultés pour les autres membres de la Jamaat qui vivent dans l'environnement immédiat. C'est pour cette raison qu'il a été dit dans un hadith que un imam est un bouclier et que l'on doit se battre derrière le bouclier. Si l'on est trop fougueux, si l'on tombe dans l'excès, c'est vrai que vos actions peuvent être qualifiées d'actes de vertu, mais si vous êtes trop zélé, vous serez coupable d'excès de conduite. Le Messie premier salam déclare que si l'on s'affaiblit, ce sera une erreur de notre part. Mais si on est excessif, si on est trop zélé, ce sera là aussi une erreur. Il a déclaré que, par exemple, il sera excessif de pardonner à tout bout de champ. Si, par exemple, on pardonne un criminel endurci, il sera poussé à commettre davantage de crimes. Ce sera là donc un excès. Mais le contraire aussi est vrai, et ne pas pardonner à chaque instant est aussi un excès. Si l'on est dur de cœur et si l'on ne pardonne pas du tout, même si grâce au pardon la personne va s'amender, si l'on s'entête à châtier, à punir, ce sera là une erreur aussi. Car dans ce cas, on va agir à mauvais escient. et l'on ne va pas agir avec discernement par rapport à la situation. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la voie du juste milieu est d'agir selon les exigences de la situation. Voilà ce que signifie la voie du juste milieu. Donc, voilà ce que signifie la Sirat al-Mustaqim. La voie du juste milieu signifie donc agir selon les exigences de la situation et tout musulman doit agir ainsi. Et pour cela, il doit faire cette prière au cours de chaque salat. Il doit prier en ce sens. C'est ainsi qu'il pourra atteindre le tawhid. Voilà donc comment éviter les excès de conduite. Voilà comment être guidé sur la voie du juste milieu, et tout cela va nous mener vers l'unicité de Dieu, parce que l'on rencontre Dieu uniquement sur le droit chemin. Lorsqu'on va agir ainsi, c'est là que l'on va atteindre l'unicité de Dieu. À part cela, Sirat al-Mustaqim signifie adopter la vérité et la sagesse. Si l'homme agit avec sagesse et vérité, ce sera là un acte méritoire de sa part. Il déclare donc qu'à part cela, la Sirat al-Mustaqim signifie adopter la sagesse, adopter la vérité, agir à bon escient selon les exigences de la situation. Si l'on applique cette sagesse et cette vérité aux créatures de Dieu, l'on va considérer cela comme un acte de vertu. Et si l'homme agit ainsi envers Dieu, cela signifie qu'il a prouvé sa sincérité envers Dieu. Ce sera de l'ihsan de sa part. Ihsan en faveur de Dieu signifie que cette personne est en train de prouver une obéissance totale envers Dieu. Si l'on agit selon la Sirat al-Mustaqim envers Dieu, cela veut dire que l'on est en train de prouver sa sincérité à l'égard de Dieu. Cela signifie que l'on est obéissant envers Dieu. Et si la Sirat al-Mustaqim s'applique à soi-même, cela signifie que l'on a purifié son âme. Dans la troisième situation, donc, l'on applique la Sirat al-Mustaqim à soi-même, et cela signifie que l'on se purifie l'âme. La Sirat al-Mustaqim signifie la vertu véritable. Cela signifie que l'on doit établir une relation sincère envers Dieu, et cela signifie aussi qu'on s'est purifié l'âme. La Sirat al-Mustaqim se base sur la sagesse et se divise en trois parties. La Sirat al-Mustaqim signifie être sincère envers Dieu, être bienveillant envers les hommes et se purifier l'âme. Il a déclaré que cela est basé sur trois choses. Cela a trait à la connaissance, aux actions et à l'état présent. Et ces trois parties se subdivisent en trois nouvelles parties distinctes. C'est vrai que ces dires du Messie premier des Islam sont difficiles à comprendre, mais puisqu'il y a bon nombre de personnes qui ne lisent pas ces écrits, et puisque dans le monde, ces écrits n'ont pas été traduits dans les langues de beaucoup d'Ahmadis, c'est pour cette raison que je suis en train de présenter cela. Donc, le Messie premier des Islam, il y a trois types de Sirat al-Mustaqim. Cela concerne la connaissance, les actions et l'état présent. Il y a les droits d'Allah, les droits des hommes et le fait d'accomplir ses devoirs envers soi-même. Les actions signifient que l'on doit accomplir ses devoirs envers Dieu, envers les créatures de Dieu et envers soi-même. Les actions signifient que l'on doit traduire cette connaissance dans la pratique. Le savoir concernant Dieu signifie que l'on doit comprendre que Dieu est unique, qu'il est la source de toute grâce, qu'il possède toutes les bonnes qualités. L'on doit comprendre que toute grâce vient de la part de Dieu et qu'il possède toutes les grâces, qu'il est la source de toute beauté et que tout doit retourner vers lui et qu'il est celui qui possède toutes les perfections et qu'il est immaculé et qu'il possède tous les attributs parfaits. Et l'on doit comprendre que c'est lui la manifestation de toute grâce. Et l'on doit aussi comprendre que c'est lui qui mérite l'adoration. C'est-à-dire que si l'homme doit se soumettre à quelqu'un, il doit se soumettre uniquement à Dieu. Si l'homme doit donc se soumettre, il doit se soumettre uniquement à Dieu. Voilà ce que signifie le droit de Dieu, c'est-à-dire la connaissance concernant la Sirat al-Mustaqim. Ensuite, l'homme doit traduire cette connaissance de la pratique. Il doit prouver sa sincérité envers Dieu et ne doit associer personne avec lui et doit se prosterner uniquement devant Dieu et doit tout le temps se tourner vers Dieu et doit s'immoler en son amour. Voilà la Sirat al-Mustaqim de la pratique. Ensuite, il y a les actions concernant les droits des autres, à savoir que le croyant doit respecter ses devoirs envers ses semblables. Il doit les considérer donc comme ses semblables et ne doit pas leur accorder un statut plus élevé. Il doit comprendre que tous sont les créatures de Dieu et que tous sont sans pouvoir devant Dieu. Il doit comprendre donc que les hommes sont tous les créatures de Dieu, car tous sont mortels, tous sont voués à disparaître, sauf Dieu. Certaines personnes accordent une telle importance à d'autres que lorsque ces personnes décèdent, ces gens abandonnent même Dieu en raison de leur tristesse et ne voient même pas Dieu. Cela peut concerner les enfants ou d'autres proches parents. Donc le Messie, premier al-Salam, a déclaré que la connaissance concerne les hommes et que l'on doit comprendre que tous les hommes sont mortels, que toutes ces créatures sont vouées à disparaître. Et l'on doit comprendre que l'homme ne peut prendre la place de Dieu, mais l'on doit respecter quand même ses devoirs envers les autres, on doit respecter les statuts des autres. L'on ne doit pas dire que maintenant tout le monde est égaux et qu'il n'y a plus de distinction entre un chef et son subalterne. Cela n'a pas été dit ici, mais on doit comprendre que tous sont égaux face à Dieu. Voilà donc la connaissance concernant le Tawhid. Grâce à cela, l'on comprend qu'il n'y a un seul être qui est le plus grand, c'est-à-dire Dieu. L'on est en train d'accomplir ses devoirs envers ses semblables, mais l'attention se tourne de nouveau vers Dieu. Lorsqu'on agit ainsi à l'égard de ses semblables, la Tawhid monte à la surface car l'on comprendra que tout est éphémère sauf Dieu. Et l'on comprendra aussi qu'aucun être humain n'est supérieur à un autre et que tous sont égaux face à Dieu. Cela nous fait comprendre donc qu'il y a un seul Dieu et cela tourne notre attention vers l'unicité de Dieu. Donc comprend donc la grandeur de Dieu et l'on comprend que c'est Dieu qui est parfait dans ses attributs. La Sirat al-Mustaqim de la pratique signifie que l'on doit accomplir des actes de vertu, que l'on doit accomplir ces actions droites et justes. La Sirat al-Mustaqim de la pratique signifie que l'on doit accomplir des actes méritoires, des actes qui sont justes. Et si l'on a des doutes concernant certaines actions, l'on doit éviter ces actions. Voilà la Sirat al-Mustaqim. Voilà comment prouver que l'on ne va pas agir à l'encontre des commandements de Dieu. Voilà donc comment l'on va prouver que l'on a placé sa confiance en Dieu. Donc cela va nous tourner l'attention vers le fait que Dieu est unique. Un Mouahid est celui qui accomplit les actions que Dieu attend de lui. Celui qui adore un seul Dieu va tout le temps faire des efforts pour que ses actions soient selon les attentes de Dieu. Et la Sirat al-Mustaqim en faveur de son âme est que le croyant doit pouvoir distinguer les mauvais penchants qui sont ancrés en lui. Des mauvais penchants tels l'orgueil, telle l'arrogance, telle l'ostentation, telle la rancœur, telle la jalousie, telle l'avidité, telle la négligence, tel le mal. Donc l'homme doit connaître l'existence de tous ces maux. Voilà donc la connaissance par rapport à la Sirat al-Mustaqim en faveur de son âme. Il doit considérer ses actions comme des actions infâmes. Il doit comprendre que ses actions vont le pousser vers sa propre destruction. Voilà le savoir qu'il doit posséder concernant la Sirat al-Mustaqim. Il doit considérer ses actions comme des bassesses. Tout cela n'est que bassesse et doit considérer ses actions comme des choses infâmes. Voilà la connaissance concernant la Sirat al-Mustaqim et cela va le mener de nouveau vers le Tawhid et doit comprendre que Dieu est sans défaut et pur. Lorsqu'il aura la connaissance de ses défauts, son attention sera attirée de nouveau vers l'unicité de Dieu. Car en ayant eu connaissance de ses défauts, il va comprendre que c'est Dieu qui est sans défaut, c'est Dieu qui est pur et immaculé. Il doit comprendre que l'homme peut posséder tous ses défauts, mais Dieu est pur et il sera protégé de ses défauts en profitant de la protection de Dieu. Il y a un seul être qui est pur, qui est saint, et cet être est Dieu lui-même. L'homme, quant à lui, peut posséder tous ses défauts et peut posséder aussi d'autres défauts. Donc, en ayant eu connaissance de ses défauts, l'homme se prosterne devant Dieu et l'on trouve un autre aspect de l'unicité de Dieu. En ayant eu connaissance de ses défauts, il doit traduire la Sirat al-Mustaqim de la pratique et il va traduire la salat mustaqim de la pratique en se débarrassant complètement de tous ses défauts. La salat mustaqim par rapport à son propre âme est que l'homme doit détruire toutes ses mauvaises actions, tous ses défauts. Voilà le prochain pas qu'il doit faire. Et il doit aussi accomplir les actes de vertu. D'une part, il doit se vider de ses mauvaises actions. Et d'autre part, il doit accomplir ses actes de vertu. Il doit se parer de ses bijoux de la vertu. Il doit se parer de ses bonnes qualités. Voilà donc comment traduire la salat mustaqim dans la pratique pour soi-même. Il a aussi déclaré que cette salat mustaqim montre l'état de l'homme. Et de nouveau, cela va le mener vers l'unicité de Dieu. Car le Mouahid essaye de se débarrasser de tous ses idoles et il vide son cœur de toute autre chose que Dieu. Le Mouahid, celui qui suit l'unicité de Dieu, se débarrasse de tous ses idoles, vide son cœur de toute autre chose que Dieu, et il comprend aussi le statut de Dieu. Il y a une distinction subtile entre ces aspects pratiques de la salat al-mustaqim et les devoirs envers autrui. Il doit comprendre que ce salat al-mustaqim qui concerne son âme est acquis après de l'entraînement. C'est après avoir fait des efforts spirituels qu'il arrive à acquérir ses qualités. Il atteint un niveau de sainteté qui peut être visible ou pas, et c'est un niveau qu'il atteint en raison des efforts qu'il a faits pour la cause de Dieu. Donc, il n'est pas important que les autres puissent voir ses qualités, mais servir les autres signifie que l'on doit aider les autres. Et une majorité doit avoir ses actions, et ces actions doivent avoir de l'effet sur une bonne partie de l'humanité. La majorité de l'humanité doit avoir ses actions et doivent profiter de ses actions. Voilà donc comment accomplir ses devoirs envers ses semblables. Voilà la condition qui a été placée par Dieu. On doit donc accomplir ses devoirs envers ses semblables. Il déclare donc que traduire la salat al-mustaqim dans la pratique en faveur des autres signifie accomplir ses devoirs envers ses semblables. Et cela sera évident lorsque l'homme va servir les autres. Et il a aussi déclaré que la salat al-mustaqim pour soi-même signifie que l'on doit se purifier l'âme. La salat al-mustaqim, cette prière que l'on fait pour soi-même, signifie que l'on doit se purifier de l'intérieur. On va voir les résultats lorsqu'on va faire des efforts pour se purifier, pour se réformer. Pour cela, ce n'est pas la peine de servir les autres. Le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on peut se purifier là même si l'on est seul dans une jungle, mais l'on ne peut pas accomplir ses devoirs envers autrui sans être en contact avec les hommes. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de monachisme en islam. Pour accomplir ses devoirs envers ses semblables, on doit vivre parmi les autres, on doit accomplir ses devoirs envers les autres. Et l'on sera considéré comme une personne qui marche sur la voie de la Salat al-Mustaqim lorsqu'on va accomplir ses devoirs envers les autres. Si l'on arrive à comprendre ces explications, l'on sera mené sur la bonne voie et l'on pourra atteindre son objectif. Et pour traduire cela dans la pratique, on doit prier. C'est pour cette raison qu'il a été dit que l'on doit faire cette prière « Ehdina Surat al-Mustaqim ». Ici, donc, l'on nous a fait comprendre que l'on doit se purifier l'âme et l'on doit comprendre aussi que l'on doit faire des efforts en ce sens. Concernant le fait de se purifier l'âme de toute forme de politisme, le Messie premier l'Islam déclare que sachez que la prière Ehdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina Anamta alayhim contient des signes quant à la purification de l'âme, quant au fait que l'on doit se départir de toute forme de politisme. C'est pour cette raison que Dieu a demandé aux hommes de prier afin de profiter de la voix des prophètes. Car la plupart des gens commettent ces actes de politisme en référence aux prophètes et aux saints. Et ces gens ont transformé leurs prophètes en Dieu. Après quelque temps donc, ces gens ont transformé leur prophète en Dieu. Il y a eu de telles exagérations concernant Jésus-Christ, et c'est pour cette raison que la chrétienté a été défigurée. Dieu a mis en exergue ces maux et ces égarements. Il a déclaré que les prophètes sont envoyés afin que les hommes puissent se parer de leur couleur. Ces prophètes n'ont pas été envoyés pour que les hommes les transforment en idoles. Le but de la venue des prophètes est que les suivants de ces prophètes doivent se parer de leur couleur et ces suivants ne doivent pas les transformer en idoles. Le Messie premier l'Islam a déclaré que « Soyez des saints, ne soyez pas les adorateurs des saints ». Dans nos sociétés, l'on a le culte des saints et des dévots, et certains ont transformé cela en leur fonds de commerce. Sur certaines chaînes de télé musulmanes, il y a des gens qui demandent aux autres de présenter leur requête de prière et ils répètent quelques paroles et déclarent que ce mariage sera un succès ou pas. Moi-même, je reçois de telles doléances. Il y a certaines personnes qui font la prière istikhara et donnent une réponse après 4 ou 5 heures et font des propositions de mariage, mais lorsque ce mariage est un échec, ils blâment les autres. Mais ces gens qui font de telles requêtes ne prient pas eux-mêmes, ces gens ne prient pas régulièrement et ces gens font une confiance aveugle à ces soi-disant dévots. Les Ahmadis doivent donc éviter de telles pratiques. Le Messie premier l'Islam a déclaré que Dieu a indiqué aux éclairés que les croyants doivent suivre les qualités des prophètes et que les qualités des prophètes ne sont pas similaires aux qualités de Dieu. Dieu, lui, est unique, il est sans partenaire. Mais les prophètes ont été envoyés afin que leurs vrais suivants soient leurs héritiers. Et leur Ummah arrive à acquérir tout ce que leur prophète a acquis à condition qu'ils suivent le prophète à la lettre. Voilà pourquoi Dieu a déclaré « Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni ». Donc cette prière nous mène de nouveau vers l'unicité de Dieu. Ensuite, le Messie premier, l'Islam, a déclaré que l'Islam signifie la persévérance. Le Messie premier, l'Islam, a déclaré que dans le Saint-Coran, il est dit que l'Islam signifie la persévérance. Tout comme on nous a enseigné cette prière, « Ihdina as-siratal mustaqim », à savoir, « Mène-nous sur la bonne direction ». La direction des gens qui ont profité de tes faveurs. L'on doit comprendre aussi que l'on a un objectif primordial. Et l'objectif premier de l'homme est que l'homme a été créé pour l'adoration de Dieu. Le but de l'homme est d'adorer Dieu. Dieu a été créé pour obéir à Dieu et pour appartenir à Dieu. Et lorsqu'il appartient à Dieu en toute sincérité, c'est là que les faveurs de Dieu vont pleuvoir sur lui. En d'autres termes, il va vivre une vie pure. C'est à l'exemple de la fenêtre qui donne sur le soleil. Lorsque la fenêtre est ouverte, la lumière du soleil pénètre à l'intérieur par son biais. L'on acquiert cette vie pure ici sur terre, tout comme il a été dit dans ce verset, Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Quant à celui qui est aveugle ici-bas, quant à celui qui n'a pas vu Dieu ici, il sera aveugle dans l'au-delà. L'on ne peut pas se débarrasser de ces impuretés par soi-même. Pour cela, on doit faire des efforts constants, l'on doit prier constamment, et c'est là que Dieu va agir en faveur de cette personne. Et la lumière de Dieu va l'entourer. Le Messie premier, l'Islam, déclare que le secret de la vie de l'homme est la persévérance. Il déclare que l'homme doit progresser dans son humanité. Lorsque l'homme progresse dans son humanité, il fait preuve de persévérance. Il déclare, Dieu a évoqué cela de la prière et de la salat al-mustaqim. L'homme doit progresser dans ce domaine et chacun, selon ses aptitudes, doit essayer d'acquérir ses qualités. Voilà donc le sens de la prière Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et pour cela, l'on doit continuer à prier. Et le Messie premier l'Islam nous fait comprendre nos responsabilités concernant cette prière. Il déclare que Dieu nous a enseigné cette prière, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim. Il y a trois conditions qui sont liées avec cette prière. On doit tout d'abord englober toute l'humanité dans cette prière. On doit aussi inclure tous les musulmans dans cette prière. On doit prier pour qu'Allah les guide dans la bonne direction et on doit aussi prier en faveur de toutes ces personnes qui prient ensemble avec nous. C'est ainsi qu'on va englober toute l'humanité. Voilà ce que veut nous faire comprendre Dieu, car tout au début, il a déclaré qu'il est le Rabbul Alamin. C'est-à-dire que sa sympathie recouvre tout le monde. Ensuite, il a déclaré qu'il est Rahman, c'est-à-dire qu'il est bienveillant envers l'humanité. Ensuite, il a déclaré qu'il est Rahim, c'est-à-dire qu'il est bienveillant envers les croyants. Ensuite, il a déclaré qu'il est Malik Yawmiddin, et cela nous encourage à être bienveillants envers la Jamaat présente, car le Yawmuddin est le jour où les communautés seront présentées devant Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a cette prière Ihdina Sirat al-Mustaqim. L'on comprend donc que l'on doit souhaiter le bien pour tout le monde, et voilà ce que nous enseigne l'islam, à savoir que l'on doit vouloir le bien de tout le monde. Tout cela nous fait comprendre que l'on doit prier pour que l'humanité soit guidée dans la bonne direction. On doit prier pour les musulmans. On doit prier pour que l'humanité soit protégée de la destruction. Aujourd'hui, l'humanité a oublié Dieu et il y a une animosité latente entre les nations. Et on essaie de nuire les uns aux autres. Et on est en train de voir les signes d'une guerre mondiale. Et cela va causer la destruction de l'humanité. C'est pour cette raison que l'on doit prier avec ardeur. On doit prier pour qu'Allah protège d'une part tous les Ahmadis, qu'Allah les protège des calamités de la guerre, et qu'Allah protège aussi la Oumma et qu'Allah protège toute l'humanité de cette destruction. Si l'on regarde cela, on va constater que l'humanité se trouve au bord d'un gouffre de feu. Et ce bord peut s'écrouler et cela peut causer une grande destruction. C'est pour cette raison qu'on doit prier beaucoup en ce sens. S'il y a des gens qui peuvent sauver le monde aujourd'hui, ce sont les Ahmadis. Car les Ahmadis sont les vrais croyants et sont dans la Jama'a du Messie premier, l'Islam. Donc, apportez ces changements en vous. Et faites des efforts pour protéger l'humanité de la destruction. Priez beaucoup en ce sens, qu'Allah nous en donne la possibilité.